Bien, j'ai pensé à un texte biblique dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, et ce sont les versets 1 à 3. C'est l'Épître aux Hébreux, c'est une épître très particulière. Le mot-clé de l'Épître aux Hébreux, c'est foi. Le verset principal, c'est le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et le chapitre principal, c'est le chapitre 11, où il nous est décrit les héros de la foi. Et le chapitre 12, eh bien, nous présente le plus grand des héros de la foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui a amené la foi jusqu'à son paroxysme, qui a amené la foi jusqu'à sa perfection, qui a amené la foi si loin que personne ne pourra l'amener plus loin. Et il nous est dit, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef, et bon, moi je suis consommateur, nous sommes dans une société de consommation, mais ce n'est pas du tout le mot consommateur, c'est celui qui amène la foi jusqu'à son but ultime. On ne peut pas amener la foi plus loin que le Seigneur Jésus l'a amené. On avait dans le passé la consommation des siècles, c'est-à-dire la fin des siècles, quand les choses, la fin du monde. Et là, le Seigneur Jésus a amené la foi jusqu'à son paroxysme. Plus loin que là, l'endroit où a amené le Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut le faire. On est devant le plus grand des héros de la foi. Nous pouvons admirer la foi d'Abraham. Nous pouvons admirer la foi de Moïse. Nous pouvons admirer la foi. Et à chaque fois, vous voyez que ces personnes, il y a un aspect de leur foi qui leur est particulier. C'est Abraham a tout quitté. Et il est allé dans le pays que Dieu lui avait dit. Et même il lui avait dit, je te montrerai en chemin le pays. Il lui a pas dit, tu vas. Et puis Moïse, par la foi, il n'a pas accepté d'être dans la lignée royale et d'être un pharaon potentiel, mais il a choisi l'opprobre, il est dit même l'opprobre de Christ. Et tous ces gens ont agi par la foi. Mais le Seigneur Jésus, lui, est allé par la foi. Il a vécu par la foi. Son sacrifice est un sacrifice de foi. Quand il a donné sa vie sur la croix, il a payé par la foi. Il a cru que son Père, eh bien, c'était le plan du Père, que c'était le plan qui amenait le salut, que c'était par son moyen que nous pourrons être sauvés. Il a cru que le Père le ressusciterait, qu'il ne resterait pas dans la tombe. Il a cru, on peut dire, contre toute espérance, et c'est dit pour Abraham, mais le Seigneur Jésus-Christ, malgré tout, a cru. Il est allé si loin que nous sommes au bénéfice d'un salut merveilleux, parce que sa foi a été la foi la plus grande qui ait jamais existé. Il a fait confiance à son Père. Nous, nous sommes à côté, nous sommes de tout petits humains, avec beaucoup de limites, beaucoup de faiblesses. Il nous manque tant, mais le Seigneur Jésus-Christ a donné ce qu'il y avait de meilleur. Il a donné sa vie par la foi. Et souvent, quand nous lisons et nous méditons la vie du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous avons tendance à croire que c'est bon, ben, il a obéi à son Père. Et en fait, c'est vrai, il a obéi à son Père. Mais il a fait plus, en fait, qu'obéir à son Père. Il a cru que le plan du Père était le seul plan nécessaire pour notre salut, pour notre conversion, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et il y a un chemin par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Et en voyant la vie du Seigneur Jésus-Christ, quand nous considérons toutes les étapes de sa vie et comment il a agi, comment il a parlé, comment il a laissé le Père parler au travers de lui. Comment il a dit, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, c'est le Père qui les fait en moi. Nous voyons, c'est l'homme de foi parfait. Et il nous est dit dans cette épître, eh bien, de regarder à celui qui a eu la foi suprême, de regarder à lui. Et notre regard, c'est si nous ne regardons que des hommes, nous allons trouver que la foi d'Abraham est une grande foi. Nous trouverons que Moïse avait une foi exemplaire. Nous vous trouverez, et ce n'est pas cité dans l'Épître aux Hébreux, la foi de David. Mais malheureusement, à chaque fois que vous lisez la vie de ces hommes et de ces femmes, parce qu'il y a aussi des femmes, eh bien, vous rencontrez une lacune. Quand on parle de la foi d'Abraham, ne parlez pas de la foi, de la morale d'Abraham. Il n'a pas une vie morale. Ne prenez pas la vie d'Abraham pour exemple, parce qu'il a fait des faux pas, même de graves faux pas. Il a fait des choses qui. C'est sa foi que l'on imite. Et beaucoup d'autres personnes, David, on peut trouver que c'est un homme vraiment exemplaire sur certains domaines, sur d'autres, c'est même pas la peine. Au contraire, c'est ce qu'il ne faut pas faire qu'il a fait. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, vous prenez sa vie d'un bout à l'autre et il est un exemple parfait. Et vous trouvez des leçons constamment de sa vie, de sa foi, de sa confiance dans le Père. Il a pu agir et aller jusqu'au bout parce que il a fait confiance au Père. C'est quelque chose de merveilleux, vous savez, que de pouvoir porter les regards sur un exemple pareil. Et nous sommes au début d'une nouvelle année, et je ne suis pas un prophète, mais mon père n'était pas prophète non plus. Donc je ne suis pas d'une lignée de prophètes. Il n'y a pas de prophète dans ma famille. Mais néanmoins, je peux vous dire une chose, c'est que dans cette année, vous aurez de bons moments. Mais vous aurez aussi des moments difficiles. Dans ces moments difficiles, qu'est-ce que vous allez faire? Où vous allez porter vos regards? Il y a un verset dans l'Épître, dans le prophète Ésaïe, où il est dit, le peuple regardera en haut, puis il regardera sur la terre, il maudira son Dieu et son roi. C'est un verset très caractéristique. Et j'ai remarqué que nous sommes humains. Bon, nous ne le faisons pas parce que, en tant que chrétien, ces choses-là, on les a peut-être fait quand nous étions inconvertis. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens. Ils ne croient pas en Dieu, mais dès qu'ils ont un problème, ils accusent Dieu. Mais je dis, mais vous faites jamais confiance à Dieu, vous ne vous souciez jamais de Dieu. Pourquoi, dans les moments difficiles, vous mettez Dieu en cause? Vous ignorez Dieu et admettez que votre vie est vécue dans l'ignorance de Dieu et que vous avez le salaire que vous avez mérité. C'est comme cela. Et après, on dit le président de la République, notre société, nos ceci et cela, mais on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Nous sommes les responsables de nos propres malheurs. Bon, bien sûr, il y a aussi des circonstances qui arrivent, et que nous ne sommes pas responsables complètement, mais néanmoins, si nous marchons avec le Seigneur, si nous vivons par la foi, eh bien, les regards sur le Seigneur Jésus, les moments difficiles passent plus facilement. Nous avons des moments difficiles, et je peux vous dire qu'il y aura des moments difficiles. Bon, les moments faciles et les moments bénis, merveilleux, c'est logique. Je ne vais pas vous parler trop là-dessus. Mais c'est vrai que les moments difficiles, eh bien, quand ils arrivent, on a envie de se répéter et se rappeler certaines paroles, certaines choses. Dans ma vie chrétienne, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments très difficiles. Mais j'avais un verset dans mon cœur et qui revenait, et qui revenait, et qui revenait. Et je m'accrochais de toutes mes forces. Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, tu l'as promis, je le crois, je m'attache à ta parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ, quand vous lisez, vous verrez qu'il s'attachait toujours à la parole de Dieu. Il a toujours mis les promesses de Dieu en avant. Il était fondé sur l'enseignement de la parole de Dieu, ce que la nature même de son Père. Il pouvait aller et ressusciter Lazare et dire, prier et dire, je savais que de toute façon que tu m'exauces toujours. Il a fait confiance jusqu'au bout. Et nous, dans ces moments, eh bien, nous saisissons la parole de Dieu. Dieu a dit. Dieu a parlé. Et ça, dans ces moments-là, nous disons, Seigneur, tu l'as dit, je le crois. Je m'attache à ta parole. Et des promesses qui ont plus de 20 ans, vous savez. J'ai deux promesses qui ont plus de 20 ans. Et je les attends. Et je les crois. Et Satan essaye de me dire, mais tu te rends compte, il a oublié. C'est non. Il n'a pas oublié. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a proclamé, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu a parlé. Dieu a dit des choses essentielles. Et nous les prenons au sérieux. Nous faisons confiance aux promesses de Dieu. Et vous n'aurez jamais honte d'avoir fondé votre vie chrétienne, sur les promesses de Dieu. Dieu a dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, elle préparera aussi le moyen d'en sortir. Ça, c'est le programme de Dieu quand vous êtes éprouvé. Satan peut dire tout ce qu'il veut. C'est un menteur. Il mentira. Et je sais, ce n'est pas une prophétie non plus. C'est un fait. C'est normal. Il est ce qu'il est. Mais nous, nous croyons en la parole de Dieu. Vous avez des épreuves, vous avez des difficultés, elles vont peut-être durer toute votre vie. Néanmoins, toutes ces difficultés, Dieu les connaît. Il sait. Elle est proportionnée, la difficulté que vous vivez est proportionnée à vos forces. Ce n'est pas la difficulté d'un autre, c'est la vôtre. Elle est choisie de Dieu, elle est permise par Dieu. C'est nécessaire. Vous avez besoin de passer par ces problèmes et ces difficultés. Dieu vous éprouve dans son amour et dans sa confiance en vous. Il sait que vous pouvez et que vous pouvez le faire et que vous pouvez aller jusqu'au bout. Toutes les épreuves ne sont pas les mêmes. Il y a les épreuves d'un chrétien faible et il y a les épreuves d'un chrétien fort. Ce ne sont pas les mêmes. Et vous aimeriez bien avoir une petite épreuve, mais Dieu vous a jugé digne d'une épreuve, d'une grande épreuve, d'une forte épreuve. Je me rappelle, c'est une histoire que j'ai lue, une histoire du 19e siècle. C'était un homme qui avait fait un rêve. Et parce qu'il priait, « Seigneur, mes épreuves sont trop longues, trop dures. Je te demande d'enlever cette épreuve, parce qu'elle est trop dure. » Et puis, je préférerais une autre épreuve. Si tu veux m'éprouver, éprouve-moi d'une autre épreuve. Et alors, dans son rêve, il était dans un champ et il y avait beaucoup de croix. Et alors, il y avait des croix qui étaient d'une forme, d'une autre forme, d'autres qui étaient en argent, qui étaient en or, d'autres avec des pierres. Mais c'était des croix, hein. Et alors, le Seigneur lui a dit, ben, choisis la croix que tu veux. Puisque tu veux changer de croix, choisis la croix que tu veux. Et alors il se promenait, il cherchait, finalement il en a trouvé une, c'était l'idéal. Il a dit voilà, celle-là c'est celle que je préfère. Et en regardant bien, c'était la sienne. C'est le Seigneur nous éprouve, et il vous éprouvera cette année. Mais ne doutez jamais qu'il vous aime. Et que sa parole est fidèle. Et que ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera un jour ou l'autre, mais il le fera. Abraham a attendu 25 ans la promesse de Dieu. David a attendu une bonne quinzaine d'années avant de devenir roi d'Israël que Dieu avait promis. Et beaucoup de personnes ont attendu et attendu. Mais l'attente fait partie de notre vie chrétienne. C'est l'attente de la foi. Et la foi est éprouvée. Il est nécessaire qu'elle soit éprouvée.
La parole de Dieu que j'aimerais relever ce matin, en ce début d'année 2012, se trouve dans dans le livre de Josué, chapitre 3 et le verset 5. Josué dit au peuple, Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous, car l'Éternel fera des prodiges demain au milieu de vous. J'ai souvent lu ce verset en me disant, sanctifiez-vous pour que l'Éternel fasse des prodiges. C'est-à-dire, si vous ne vous sanctifiez pas, l'Éternel ne fera pas de prodiges. Et ce n'est pas cela que ce verset nous dit. C'est que l'Éternel fera des prodiges demain. Alors, sanctifiez-vous. Consacrez-vous. Mettez-vous à part. C'est ça le sens du mot se sanctifier. L'Éternel va faire des choses merveilleuses. Les prodiges, c'était des miracles, des choses extraordinaires, des choses qui sont dignes de Dieu. Alors, si vous voulez y participer à ces choses, sanctifiez-vous. Préparez-vous spirituellement. Consacrez-vous à Dieu pour accompagner les miracles qu'il va accomplir. Parce que si Dieu devait attendre qu'on soit prêt, il ne se passerait jamais rien. Il n'y aurait jamais eu aucun miracle. Et je vais même plus loin. Si Dieu avait attendu que les hommes soient dignes du salut, s'il s'était dit, je vais attendre que l'humanité s'améliore, se moralise, que les hommes, en mûrissant dans leur société, en évoluant, n'est-ce pas, arrivent à un niveau de réalisation morale où ils se disent, bon, maintenant, il faut arrêter de s'entretuer, il faut faire la paix, il faut être tolérant, il faut s'aimer les uns les autres. Et là, quand l'humanité sera arrivée à ce niveau-là, là, j'enverrai le salut. Quand est-ce que Dieu aurait envoyé le salut s'il avait attendu cette société merveilleuse ? Jamais, merci. Et c'est seulement la miséricorde de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Il a dit, quand les hommes étaient encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas attendu qu'on soit digne pour agir. Et c'est la même chose pour le peuple de Dieu. Dieu va faire des choses, mais il faut que nous, on soit sanctifiés pour y participer. Ici, dans le contexte de ce passage de Josué, il y avait une nouvelle étape pour le peuple d'Israël. Ils allaient entrer dans la terre promise. Jusque-là, ils avaient passé 40 ans à tourner dans le désert du Sinaï. 40 ans de perdu, on peut dire, presque. 40 ans dans un désert stérile. Alors que Dieu avait fait la promesse bien avant, avec Moïse, il a dit, vous allez traverser la mer Rouge et vous allez entrer dans la terre promise que j'ai préparée pour vous. Et au lieu d'entrer dans la terre promise, ils sont restés coincés dans ce désert. Pourquoi, dit la Bible ? À cause de leur incrédulité, de leur endurcissement. Ils sont restés coincés dans ce désert. Dieu a fait quand même des miracles dans ce désert. Ils avaient tous les jours la manne, ils avaient l'eau du rocher, ils avaient leurs vêtements qui ne s'usaient pas. Il y avait des milliers de gens, des dizaines de milliers, là, des centaines de milliers d'individus qui survivaient par la main miraculeuse de Dieu. Mais néanmoins, ils ont raté la bénédiction de Dieu à cause de leur incrédulité. Sauf deux personnes en particulier, Josué et Caleb. Ils faisaient partie des espions qui, eux, ont vu le pays promis, qui ont dit « c'est un pays merveilleux, il faut y aller !» Mais tous les autres ont dit « oh non, 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 il y a des géants dans ce pays, il y a des murs très hauts, des forteresses très épaisses, des ennemis terribles, il ne vaut mieux pas y aller. » Effectivement, ils sont restés dans leur désert. Et là, c'est la veille du jour où ils vont entrer en terre promise, en Canaan. C'est à la fois exaltant et effrayant. Exaltant parce qu'ils vont entrer dans un pays extraordinaire, un pays où coule le lait et le miel. Ils vont quitter leur désert et le sable. Au bout d'un moment, vous en avez assez du sable. Ils vont voir ce pays verdoyant, ils vont pouvoir planter des vignes, des vergers, ils vont pouvoir construire des maisons, vivre là. Et puis, effrayant, parce qu'ils savent qu'il y a des ennemis là, qu'il y a des populations qui vont les repousser, qui vont les attaquer, qui vont vouloir les exterminer, qui ont effectivement des grandes villes fortifiées. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle étape dans la vie, et spécialement dans la vie chrétienne, c'est à la fois exaltant et effrayant. Exaltant, se dit « Dieu va faire des choses magnifiques », et c'est effrayant, se disant « ça va être compliqué, ça va être, il va y avoir des obstacles ». Et la tentation humaine, c'est de pantoufler dans le désert, de rester dans notre petit train-train, de tourner en rond pendant des années. Alors, on avance, on a l'impression d'avancer quand on tourne en rond. Vous êtes d'accord avec moi? On marche. Mais on arrive toujours au même endroit. Alors, on marche encore. Ah, je suis toujours au même endroit. Et c'est ça, les chrétiens qui n'avancent pas. Ils bougent, il se passe des choses, mais ils reviennent toujours au même endroit, dans les mêmes péchés, dans les mêmes travers, les mêmes choses. Ils ne sont pas passés par le Jourdain, là, il fallait traverser le fleuve. Et ils n'ont pas passé le fleuve du Jourdain. Et il y a un moment dans la vie chrétienne où par la foi, il faut dire j'en ai assez de tourner en rond, de retomber dans les mêmes choses. Par la grâce de Dieu, je veux passer ce fleuve. Je veux entrer dans le pays promis, dans la vraie vie chrétienne. Pas la vie chrétienne de tourner en rond, mais la vie chrétienne de conquête, d'avancée, de fruits, de moissons. Ça faisait des années qu'ils n'avaient pas vu un épi de blé, qu'ils n'avaient pas semé une graine dans la terre. Tout ce qu'ils avaient, c'était du sable. Il ne se passait plus grand-chose pour eux. Ils s'étaient habitués certainement à leur vie dans le désert. Et là, ils entrent dans l'inconnu. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas totalement inconnu parce que Dieu est là pour les faire traverser. Et nous, nous entrons dans une nouvelle année avec plein d'inconnus, comme chaque année. Dieu nous réserve des choses nouvelles, des choses exaltantes. Mais nous, on a peur. On dit, bon, je sais où j'en suis, je sais, j'ai mes repères là. Surtout, ne bougez pas. Laissez le tableau, le décor, tout en place. Et Dieu, il a envie de renverser notre décor de carton-pâte et de dire, maintenant, on va entrer dans la vraie vie, dans la vraie vie de foi. J'ai des prodiges, des choses extraordinaires que je veux faire avec vous. Est-ce que nous voulons participer avec Dieu ou est-ce que nous allons laisser passer la bénédiction pour les autres? C'est terrible de voir d'autres personnes vivre la plénitude de Dieu et soi-même de rester sur le carreau. Un peu comme si des gens allaient prendre un train qui les amenait à la montagne pour des vacances merveilleuses. Et puis vous, vous êtes là, vous êtes sur le quai de la gare, je ne sais pas quelle gare, mais une gare bien triste et bien sombre. Et vous avez raté le train. Et eux, ils vous font « Ouais, bah, au revoir !» Et vous êtes là. Moi, j'ai raté le train. Il y a eu des trains ratés comme ça dans les grands réveils spirituels. Hein. Des chrétiens qui, par leur incrédulité, leur endurcissement, n'ont pas laissé l'Esprit de Dieu les toucher. Et ils sont passés à côté de miracles extraordinaires. Nous sommes un peu comme le peuple d'Israël devant ce Jourdain. Nous avons un conducteur comme eux, Josué. Josué, en hébreu, c'est aussi Jésus. C'est le même nom, hein? Yéhoshua, l'Éternel sauve. Nous avons notre Josué, qui est le Seigneur Jésus-Christ, notre berger, qui va marcher devant nous, qui va nous conduire. Alors ne ratons pas cette bénédiction. Passer le Jourdain, c'est passer à un autre niveau dans sa foi. C'est quitter sa petite vie chrétienne bancale. Cesser de clocher, hein, comme disait le prophète Élie, des deux pieds, un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur. Maintenant, choisissez qui vous voulez servir. C'est le moment de rentrer dans la vie de foi, de conquête, de prière, de fruits, de moissons. Ici, il donne quatre choses à faire dans ce chapitre. La première chose, il dit « Sanctifiez-vous », Josué 3, verset 5. « Consacrez-vous, mettez-vous à part, gardez-vous pur, éliminez ce qui est futile, inutile. » Éliminez, enlevez les chaînes du péché qui vous empêchent d'avancer. C'est exactement ce que dit justement l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Hein. Il dit, hein, ne laissons pas le péché nous empêcher d'entrer dans la course. Les liens qui nous retiennent. Le Seigneur veut qu'on se sanctifie. Et tant qu'il y a des péchés qui nous retiennent, on ne peut pas entrer dans ce pays promis et jouir de toutes ces bénédictions. Il y a un moment où il faut dire, Seigneur, je veux ta bénédiction. Et je sais que je ne peux pas avoir la bénédiction et le péché en même temps. Alors il faut choisir. C'est un petit peu si on vous demandait de choisir. Voilà, tu as ici un diamant et là tu as un lingot d'or. Tu ne peux pas avoir les deux, lequel tu choisis. Pourquoi je donne deux choses comme ça de valeur? Parce que souvent les péchés qu'on garde pour nous ont de la valeur. On les appelle les péchés mignons. Parce qu'on y tient. S'ils sont encore là dans notre vie chrétienne, c'est qu'on y tient. Et on y tient et en même temps, on voit bien le diamant de la vie remplie de l'esprit. On voit bien que la vie avec Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on est par la foi, quand on avance, quand on a des victoires. Et on a ces deux choses. Oh, mais ça, j'y tiens. Et on prie. Oh, Seigneur, envoie un grand réveil. Et puis, on a nos péchés quand même. Seigneur, mais ne m'enlève pas trop vite les péchés. Et ici, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, coupez les liens, passez à autre chose. On va rentrer dans le pays promis et vos péchés ne servent à rien là. Vous avez besoin d'être concentrés, d'être purs, particulièrement dans notre monde qui sombre moralement. Hein. Il y a une avancée dans la débauche, dans l'exposition de la nudité, de toutes sortes de choses. Et j'en passe, l'amour de l'argent, etc. Et le peuple de Dieu doit être particulièrement consacré et pur, à part. On n'a pas la même pensée, le même but dans la vie. La deuxième chose qu'il devait faire se trouve au verset 13 du chapitre 3. Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Il précise qu'à cette époque-là, c'était en été, enfin fin du printemps, le Jourdain était particulièrement rempli et débordant. Ce n'était pas aussi large que la Seine, hein, mais c'était un vrai fleuve. Et ils arrivent devant le fleuve, et les sacrificateurs portent l'arche de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu. Et il dit, au moment où ils mettront le pied dans l'eau, chut, le fleuve se coupera, comme la mer Rouge, et vous passerez à sec. C'était ça le premier prodige que Dieu allait réaliser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fallait l'arche devant. Le Seigneur passe devant. Mettre Christ en premier dans ma vie, ça c'est aussi se sanctifier. Qui est premier dans ma vie? Qu'est-ce qui a le plus d'importance pour moi dans ma vie? Est-ce que c'est Christ ou est-ce que c'est autre chose? Et pour entrer pleinement dans les bénédictions que Dieu nous prépare, il faut mettre Christ en premier, il passe devant. Et puis, une troisième chose à faire au chapitre 4. Ils passent tous le Jourdain, et verset 2, Josué dit, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donc il y avait un représentant de chacune des 12 tribus. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du fleuve Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez la nuit. Donc, quand ils sont arrivés là, le fleuve s'est ouvert. Et là où le fleuve s'est ouvert, il a dit ramassez 12 galets, hein, 12 pierres au fond du fleuve. Et ces pierres, vous allez en faire un petit autel là où vous passerez la nuit. Et cet autel sera un souvenir, il dit, pour vous. Verset 7. Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Eh bien, nous aussi, il faut qu'on prenne des pierres et qu'on les amène de l'autre côté de la rive. Qu'est-ce que c'est ces pierres? On peut dire, ça peut symboliser des promesses de Dieu. Ces pierres, c'était le témoignage de quoi? Qu'il y avait eu un miracle, que Dieu avait ouvert le fleuve et qu'ils avaient pris ces pierres à sec, hein, au fond du fleuve. Et nous, nous avons des témoignages de miracles. Déjà, il y a la Bible. La Bible est remplie de choses extraordinaires que Dieu a faites. Et nous pouvons, par la foi, dire, Seigneur, tu as fait ça dans le passé. Est-ce que tu ne peux pas le reproduire aujourd'hui? Est-ce que tu n'es pas le même Dieu? Non pas qu'il va le reproduire exactement pareil, parce que Dieu ne fait jamais deux fois la même chose. Mais Dieu a la même puissance, la même grâce, le même désir de voir tous les hommes sauvés. Jésus a dit, quand je m'en serai allé, vous ferez des choses plus grandes que moi j'ai faites. C'est quand même quelque chose, cette phrase de Jésus. Nous avons ces pierres-là qu'il faut prendre, ces pierres du miracle. Parce que si on arrive tout seul dans cette nouvelle année en disant, bon, allez, je relève mes manches et on va essayer de faire des choses. Mes amis, on va vite se décourager, vite se fatiguer, vite tomber. Mais si on entre dans cette année avec les promesses de Dieu, ces pierres du miracle, eh bien, nous avons cette foi. Parce que on a reçu tout à l'heure un verset chacun. Là, il y a des promesses, on peut prendre cette promesse et dire, Seigneur, accomplis cette promesse dans ma vie. Mais ça, c'est un verset qu'on a reçu ce matin. Mais la Bible a combien de promesses? Vous savez qu'il y en a des centaines. Des centaines et des centaines. Et si on lit la Bible tous les jours, on va trouver ces promesses tous les jours. Et tous les jours, on peut dire à Dieu, Seigneur, voilà, j'ai trouvé cette promesse. Accomplis-la par ta puissance et ta grâce. Mais il y avait une dernière chose qu'il devait faire, c'est au verset 9 du chapitre 4. Voilà, c'est ça. Josué 4, 9. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. La première étape, c'était de prendre 12 pierres du fleuve et de les amener dehors, de l'autre côté, et d'en faire un autel du souvenir. Mais ce qu'ils devaient faire aussi, c'est prendre 12 pierres de dehors et de les laisser dedans. Et lorsque le fleuve allait reprendre son cours, ces pierres seraient enterrées. Est-ce que vous voyez un peu le symbole là? Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Les 12 pierres qu'on enterre sous l'eau, c'est nos péchés, c'est notre vie sans Dieu, notre vie d'incrédulité. Pour Israël, c'était la vie d'incrédulité dans le désert. C'est enterré sous l'eau pour toujours. Et maintenant, on a une nouvelle vie avec des nouvelles pierres par la grâce de Dieu. Et quand on entre dans une nouvelle année, en apparence, une nouvelle année, c'est tout à fait artificiel. C'est les hommes qui ont dit, voilà, le 31 décembre, c'est la fin, le 1er janvier, c'est le début. Il ne va pas, aujourd'hui, il ne s'est pas passé un tremblement de terre parce que nous sommes le 1er janvier. Néanmoins, dans la Bible, il y avait un rythme dans l'année spirituelle et il y avait le nouvel an, Rosh Hashanah pour les Juifs. Et s'il y a le nouvel an, c'est pour nous aider justement à nous remettre en question, à reprendre les choses à zéro. Dieu remet le compteur à zéro. Il dit, allez, maintenant tu peux enterrer ce qui est passé et aller de l'avant. Parce que nous, souvent, nous portons nos péchés, nos culpabilités, nos échecs sur les épaules et on les accumule au fur et à mesure des années. Ah là, sur cette épaule-là, j'ai mes 23 échecs retentissants. Là où j'avais essayé d'avancer avec Dieu et puis j'ai échoué, je suis tombé. J'ai essayé d'abandonner ce péché puis finalement je l'ai repris. Et on porte ces fardeaux-là sur les épaules et ça nous empêche d'avancer. On est plié, courbé. Et le Seigneur dit, tout ça, tu le jettes dans le fleuve. Et on peut, hein, même dans la prière, jeter nos péchés dans le fleuve. Jeter nos échecs passés dans le fleuve. Jeter nos rancœurs peut-être, hein, nos haines, nos vengeances, je ne sais pas, tout ce qu'on peut avoir. On jette tout ça dans le fleuve, tout ce qui nous empêche d'avancer avec Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit. Et là, il y a un acte de foi. Parce que nous, on n'oublie pas nos péchés, nos échecs. On dit, oui, mais je me souviens ce que j'ai fait. Oui, mais Dieu a dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Ce n'est pas une promesse de Dieu, ça. Ce n'est pas une nouvelle pierre, là. Je ne me souviendrai plus. Dieu ne s'en souvient plus. Pourquoi vous vous en souvenez encore? Si le Seigneur a pardonné nos péchés. Et le Seigneur veut qu'on entre avec un cœur neuf dans la nouvelle année et qu'on conquiert le pays. Conquérir, ça ne veut pas dire prendre la France pour Dieu ou je ne sais pas quoi, mais c'est gagner sur le royaume spirituel des ténèbres. Hein. Pour l'instant, le prince de ce monde, c'est quand même le diable. C'est pour ça que ce monde tourne mal. Un jour, le Seigneur Jésus va revenir rétablir tout ça. Mais en attendant, c'est avec son peuple, les chrétiens, qu'il veut apporter la bonne nouvelle de salut. Il veut changer les vies, il veut pardonner les péchés, sauver les âmes, donner la vie éternelle et se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous avons ce plan et je suis certain que cette année, le Seigneur va faire encore de grandes choses. Mais peut-être qu'il va les faire dans l'église d'à côté. Hein? Mais il va les faire. Le problème, c'est que si nous, on n'est pas sanctifiés, on va rater. Dieu va faire ses miracles, mais on ne sera pas dedans. Et pourquoi cette année ne pas, justement, mettre notre vie, ceindre nos reins, jeter nos péchés, nos échecs, prendre des nouvelles pierres et aller de l'avant dans ce pays promis, dans la vie de maturité, la vie de foi, de ne plus retomber toujours dans les mêmes travers, de faire des progrès extraordinaires par la grâce de Dieu. Dieu fait toujours sa part, il est absolument fidèle et sa part est 99%, mais il nous demande toujours notre part, ce petit 1%. Notre part ce matin, c'est de nous consacrer, de nous sanctifier, de demander au Seigneur de nous remplir de son Saint-Esprit et de nous vider du péché, de l'impureté. On va chanter encore un cantique.